Le générique, vous le connaissez, il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov. Vendredi Théâtre, la dernière émission de l'année, mais on reviendra au mois de janvier, je vous l'assure, on reviendra le 10 janvier, on va prendre quelques jours de congé. L'équipe de Vendredi Théâtre est presque au complet puisque Tito, l'inénarrable Tito, vient d'arriver. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et je suis également avec Robin.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, ça
pour
va,
cette
merci.
Dernière de l'année. Et oui, on va faire un petit peu le bilan de ce que nous avons vu sur Montpellier pour cette saison de 2013-2014. D'abord, une nouvelle, donc c'est la nomination aux 13 vents de Rodrigo Garcia. Une nomination qui me fait plutôt plaisir, moi, puisque ça va un petit peu changer. C'est un petit peu l'antithèse de Jean-Marie Besset. Qu'est-ce que t'en penses, Tito?
C'est pas à cause de ça que je suis ravi, mais c'est parce que j'adore son travail et je suis vraiment ravi. C'est une très très bonne nouvelle.
Robin, tu connais pas encore Rodrigo Garcia, tu n'as pas encore vu de spectacle de lui. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours à la limite de la performance hein, ce qu'il fait, et puis ça déménage.
Oui, mais j'en ai beaucoup entendu parler, notamment à Avignon. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça va changer le public des 13 vents. Et je pense que ça va introduire un dynamisme qui va beaucoup changer les choses. Et je pense que ça fait du bien d'avoir des choses qui changent du tout au tout, comme on va pouvoir le voir.
Oh, il faut un peu de temps en temps remuer le cocotier.
Et je pense que les fourreurs vont faire fortune puisque les fourrures vont revenir au frigo. Alors, par contre, il y a aussi une raison, puisque je ramène toujours le Portugal. Là, je ne rate pas mon occasion de ramener le Portugal à tout bout de champ. Il y a plusieurs collaborateurs portugais de Rodrigo Garcia que j'espère voir ici, notamment un John bon, qui se reconnaîtra. Bon.
Et d'ailleurs, toutes les pauses musicales de ce matin seront d'origine argentine, puisque Rodrigo Garcia est hispano-argentin. Donc voilà, vous aurez plein de petites surprises et de tango.
C'est argentino, surtout.
Eh bien, on va commencer par faire ce panorama de ce que nous avons vu. On risque d'être méchant. On n'est pas toujours d'accord entre nous. C'est ça qui est intéressant. Mais justement, il y a un spectacle que Tito, tu es, je crois, le seul ici à avoir vu. C'est le premier spectacle qu'il y avait au 13 vents. Car tu es poussière, d'après une pièce d'Harold Pinter. Et c'était dans la petite salle des 13 vents.
Alors, puisqu'on fait toujours des apartés depuis le début de cette émission... Là, on va faire un aparté pour rappeler qu'hier, le toit de l'Apollo Théâtre à Londres s'est effondré. C'est une vénérable maison créée en 1901 qui avait passé Sir John Gielgud, David Suchet, enfin Vanessa Redgrave et même les premiers pas en Europe dans le théâtre de Joss Hartnett, hein, le jeune comédien américain. Qui a triomphé dans le rôle de Rain Man. Voilà, donc une pensée aussi pour les victimes, puisqu'il y a eu plusieurs blessés.
On revient aux 13 vents avec ce
donc
premier
avec
spectacle.
Harold Pinter. Harold Pinter, moi d'abord, j'adore Harold Pinter, j'adore cette façon de ramener les choses, mine de rien, toujours, hein, une histoire qui a l'air banale et qui a une énorme profondeur. Toujours avec un langage de tous les jours, une conversation de salon, en fait, de personnages qui sont ensemble et qui parlent comme si on les écoutait derrière une porte et que c'était une simple conversation entre un couple. Et du coup, on découvre cette déchirure qu'il y a chez cette dame. On ne sait pas, en fait, si elle a rêvé tout ça, si elle est vraiment... Ce sont des réminiscences, mais en tout cas, elle est perturbée et troublée par le problème de la Shoah qui l'habite, et probablement d'un père, et peut-être aussi un viol, on ne sait pas très bien. Mm-hmm. Tout ça, c'est...
Cette dame est jouée par Fanny Rudel.
Fanny Rudel, qui le joue très bien avec Jean-Marc Bourg.
Jean-Marc Bourg, oui, l'énorme Jean-Marc Bourg.
Voilà, et c'est très très bien, c'est tout en retenue. J'ai un reproche à faire, parce que c'est vrai que Pinter, bon, c'est toujours très intériorisé, etc. Mais manquait un petit peu de rythme, j'ai trouvé. On s'ennuyait parfois. Et voilà, c'est le reproche à faire ces noms, c'est très très bien rendu, c'est très sobre, très simple.
C'était une mise en scène de Stéphane Laudier, qu'on avait reçu ici, pour la, je crois que c'était la première émission de la saison. Eh ben, il avait eu du mal à parler de son spectacle, c'était un petit peu laborieux l'interview qu'on avait fait, mais enfin bon... A priori, une opinion plutôt favorable.
Ah oui, mais moi je suis très favorable, simplement, et je ne suis pas le seul. À la sortie, on avait une sensation quand même vague d'ennui pendant le spectacle. Donc il y avait quelque chose dans le rythme, ou quelque chose qui n'allait pas et qu'il faudrait peut-être corriger.
Dans la mise en scène,
pas dans le texte. Dans la mise en scène, pas dans le jeu, parce que le jeu, c'est pas la question. C'est dans le... Oui, peut-être dans le début des acteurs, mais ça, c'est au metteur en scène de le corriger. Voilà. Mis à part cette vague sensation d'ennui, parfois, pas rien à dire, j'ai beaucoup aimé.
Donc ça, c'était du 24 au 28 septembre. C'était le premier spectacle qui ouvrait la saison des 13 vents. Et le premier spectacle qui ouvre la saison des 13 vents sur la grande scène, c'est La Maison et le Zoo, d'après une pièce d'Édouard Albi dans une traduction de Jean-Marie Besset. Alors, Robin, tiens, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. Oui. C'était la première pièce que j'ai vue de l'année. Et c'était un gros morceau quand même, parce que du coup, la pièce est... Et déjà été longue, c'était une pièce qui était composée en deux fois, si je me trompe. Et c'est la première fois, ou une des premières fois, où étaient rassemblés les deux morceaux de cette pièce dans une même mise en scène. Du coup, ça donnait une pièce divisée en deux parties qui étaient assez étonnantes, puisque dans la première partie, c'est l'histoire du coup de ce...
C'est un couple.
C'est un couple, oui, où il y a un couple bourgeois, où il y a une personne qui travaille dans les manuels scolaires et qui passe sa vie un petit peu de manière intellectuelle. Et du coup, ça dérape, en fait, entre les deux personnes sur leur passé commun et sur leur inaptitude à construire une relation, une relation en partie sexuelle et amoureuse. Mmh. Et du coup, on en vient à découvrir le passé de ces personnages, leur inconscient, une pièce assez psychanalytique. Moi, c'était le côté qui m'avait attiré, avec deux acteurs qui, au début, étaient, farouchement ennuyants, pour donner, c'est ce que j'ai ressenti, des acteurs qui étaient conditionnés peut-être par leur rôle, du coup, de bourgeois un petit peu
plat,
wasp, mais qui auraient pu, je pense, être interprétés avec plus de vérité, plus d'énergie, oui. Et du coup, cette première partie qui m'a un petit peu déstabilisé, qui était intéressante par le texte, mais longue. Et par contre, la deuxième partie, elle, qui se passait dans un univers de plus ou moins de l'inconscient du protagoniste principal, l'homme.
Qui se retrouve dans un jardin public et qui fait une drôle de rencontre.
Avec un personnage, du coup, et un acteur qui était... pour le coup, lui, qui avait été à l'opposé niveau énergie de ses prédécesseurs, et qui donne à la pièce un aspect beaucoup plus attrayant, beaucoup plus énergique, et avec des monologues complètement extravagants qui sont à l'opposé finalement du calme et de l'apparence ennuyeuse de la première partie.
C'est vrai, tu le disais, au départ c'était une pièce qui s'appelait Zoo Story, et 50 ans après, donc, Albi a écrit une introduction. Une introduction, c'est une écriture complètement différente entre la première et la deuxième partie. Et à la limite, cette première partie qui a été écrite 50 ans après, elle n'est pas très utile. Je ne la trouve pas très utile, en fait.
Ou alors on aurait pu la raccourcir, et simplement parce que ce qui est intéressant, c'est de montrer la transition du coup entre l'inconscient et le conscient, et le point de départ du personnage, et parce que du coup c'est cette transformation qui va s'accomplir entre un personnage du coup qui a finalement jamais remué ce qui le touchait en profondeur, et après cette rencontre, ce personnage finalement, qu'est-ce qui lui arrive à la fin, le personnage qu'il rencontre meurt, et lui-même...
Il est un petit peu perturbé.
Perturbé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. C'est ça qui est intéressant dans cette rencontre.
Il y a aussi une écriture dans la deuxième partie qui me fait tout à fait penser à la Beat Generation. Il y a un petit côté Kerouac dans ce personnage, un petit peu barré.
Oui, elle a
barré.
Dit ce que ça dit.
Voilà, il est un petit peu barré. Donc, c'était une création au 13 vents, et ça avait lieu donc du 1er au 12 octobre. Donc, première pièce créée sur la grande scène pour cette saison. plutôt favorable, somme toute, si ce n'est que la première partie, on s'ennuie quand même pas mal.
Ouais.
Voilà, c'était Gilbert Devaux qui avait fait la mise en scène. On va passer maintenant à un tout petit théâtre qu'on aime bien, pour lequel on a une tendresse particulière, c'est le Carré Rondelet. Et Tito, tu avais vu un diptyque Marivaux Musset, et je crois que tu étais sorti assez enthousiaste de ce diptyque. C'est une toute jeune compagnie.
Oui, tout à fait.
On les avait reçus ici, ils étaient vraiment tout à fait adorables. Hein, ils avaient fait de beaux extraits du Marivaux. Voilà, dis-nous un petit peu ce que tu en penses.
Alors c'est Marivaux et Musset. Hein. Mmh.
C'est la dispute de Marivaux et il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset, donc deux pièces.
Voilà, alors c'est deux choses intéressantes. Déjà parce que c'est l'année où est mort... Oh merde.
Je ne sais pas, je ne connais pas celui-là.
Non, mais parce qu'il a commencé justement par mettre en scène la dispute.
Il y a un siècle d'écart entre les deux auteurs.
Et puis l'année dernière, on avait « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » de mise en scène par
Jean-Marie Besset.
Par Jean-Marie Besset. Donc il y avait un rapport direct avec l'actualité. Je trouve qu'ils se sont très bien débrouillés. Ce sont des jeunes presque étudiants, hein, conservatoires. Ils viennent juste de sortir. Et quatre, ils ont l'âge des rôles déjà, mm-hmm. ce qui est très agréable. C'est drôle parce qu'il y a j'ai remarqué une harmonie dans les voix, hein, c'est choral, ils ont les voix, il paraît que c'est pas fait exprès, mais à mon avis pas tout à fait, ces choses-là c'est jamais...
Entre les voix de ténor, les voix de baryton, les voix de soprano,
de
mezzo.
Le spectre. et comme c'est un jeu de cache-cache, un jeu de dupe aussi entre les personnages, ça venait très très bien, c'était tout simple, c'était sans prétention, et finalement le résultat, meilleur qu'au 13 vents, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, j'ai trouvé ça plus réussi qu'au 13 vents, avec de tout jeunes acteurs, et c'était frais, c'était magnifique, et c'était très très beau.
Et à l'antenne, ils avaient été excellents d'ailleurs, avec un bel enthousiasme. Ils avaient donné deux extraits, non pas un, mais deux extraits du Marivaux. Et c'était tout à fait plaisant, effectivement. Ils avaient des très jolies voix.
Et voilà, c'était Chéreau dont je voulais parler tout à l'heure.
Ah.
J'ai toujours...
Tu as un peu l'esprit en escalier. Bon, on va faire une petite pause musicale. Je disais au début de l'émission que nous allons être plutôt du côté de l'Argentine. Et bien, on va revenir aux sources avec Carlos Gardel, un morceau qui s'appelle La Mariposa, qui a été enregistré en 1930 à Buenos Aires.
La mariposa liviana, mira el canto la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuerte pura. El viento canciones suave, dulce gorjeo, las aves. Yo solo la tengo amargura. Mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y pureza tierra en el cielo, que cubre la patria mía. Tiene muchas melodías, los carpes y los cardares, y calma tienen los mares, después de los aquilones, todos tienen ilusiones, yo solo tengo pesares. insieme mi den canto freddo. Dulce una tierra lo beso de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternesa. La noche tiene grandeza que en su corazón se arma. Lisura tiene la palabra. Yo solo tengo tristeza.
Et oui, Carlos Gardel sur Divergence FM, l'enregistrement gratouille un petit peu puisque c'est un enregistrement de 1930. Carlos Gardel d'ailleurs, qui n'était pas du tout argentin d'origine mais qui était natif de Toulouse, et on l'oublie toujours. Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre, je suis avec Tito et Robin et nous passons un petit peu au crible tous les spectacles que nous avons vus pour ce début de saison. Ça s'appelle donc Mérite un large détour et on va enchaîner avec un spectacle qui effectivement méritait un très large détour puisque c'est une catastrophe lamentable. C'était à Jean Villard et c'était un opéra de Katsu mis en scène par Marion Guerrero. Eh ben quelle déception, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Moi je suis ressorti du spectacle furieux parce que c'est quand même un texte que j'adore, un opéra que j'adore, donc avec une musique de Courlevail, un texte de Bertolt Brecht, et que dire si ce n'est que ben, ça a été massacré pendant 2 heures, et ça faisait mal, parce qu'en plus, je ne sais pas, c'était très mal chanté, on a mis des morceaux un peu qui n'avaient rien à voir, ça tombait comme un cheveu sur la soupe, bon voilà, c'était tape à l'œil.
Au mieux, Babino Caro, c'est pas une chanson d'amour, pitié, il faut quand même... Quand on ne sait pas une langue, on se renseigne. Moi, je chantais du Schubert sans connaître l'allemand, mais la première chose que j'ai demandé, c'était qu'est-ce qu'il raconte là.
Et c'est vrai qu'il y avait un extrait de Puccini, donc comme Mio Babbino Caro, qui a été massacré. Ça me faisait mal de tous les côtés. Enfin, moi, c'était, je crois, l'un des plus mauvais spectacles que j'ai vu pour ce début de saison, mise en scène par Marion Guerrero, qui m'a beaucoup, beaucoup déçu. Robin, je pense que tu à peu près partages mon opinion.
Oui, c'est à peu près la même chose, d'autant plus que c'était une pièce que je découvrais, dont j'avais beaucoup entendu parler, je suis allé la voir avec un grand enthousiasme. Et j'ai été déçu par cette volonté du coup qu'ont beaucoup de jeunes metteurs en scène de vouloir absolument moderniser les pièces en incluant des chansons contemporaines, en jouant d'une façon un peu désinvolte et sans être réac du tout. Mais là sur le coup ça ne marchait pas du tout parce que la pièce avait un aspect politique qui a été détruit, un aspect poétique qui
en
a
avait plus
aussi été détruit avec une volonté du coup à la fois de reprendre les vieilles structures du théâtre constructiviste avec tous les costumes qui pendaient de part et d'autre et une volonté esthétique un petit peu tape à l'œil et c'est vrai que du coup moi c'est pas un spectacle qui m'a marqué, c'est dommage, j'ai vraiment envie d'aller revoir une vraie mise en scène de l'opéra des Katsu
en intégrale avec la musique intégrale de Courtweil.
Exact.
Tito.
Moi ce qui m'a surtout gêné, mis à part tout ce que vous venez de dire, qu'il y a déjà beaucoup, c'est de surcroît que c'est un travail d'école. Et les gens ne s'écoutaient pas. Il paraît qu'ils ont eu que 4 jours pour répéter une reprise, mais ils avaient déjà répété avant. Les gens ne s'écoutaient pas, même les musiciens ne s'écoutaient pas. Ils jouaient chacun de leur côté. Ça, franchement, alors là, ça, si c'est un travail d'école, là, c'est lamentable. Hein. Parce que c'est mauvais, 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 mauvais. Et puis, il faut arrêter de faire semblant que les jeunes, hein, il faut faire jeune, hein, il faut faire comédie musicale. Hein, parce que non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Exact.
Et d'ailleurs, on parlait hors antenne, Robin, tu avais vu un opéra de Benjamin Britten basé sur l'auteur, d'après l'auteur, non pas Brecht, mais John Gay.
Oui, tout à fait. Et là, c'était mis en scène
par... C'est la pièce d'origine, en fait, dont s'est inspiré
tout
Brecht.
Tout à fait, oui. Et qui était vraiment un opéra formidable, d'ailleurs, qu'on a vu ensemble.
On était ensemble.
De Benjamin Prince, un ami qui est un metteur en scène particulièrement talentueux. Et du coup, ou une pièce dans laquelle on ressentait toute l'euphorie et tout le côté fouillis de cette pièce.
Côté mais, délire aussi.
Le côté délirant complètement, mais qui ne perdait pas de vue, du coup, même dans la joie, les divisions politiques entre la monarchie, la justice, les pauvres, et qui nous faisait sentir finalement l'esprit de la pièce et ce pourquoi elle avait été écrite. Et chose qu'on a perdu du coup tout à fait dans la mise en scène contemporaine.
Oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est une pièce politique quand même. Et là, il ne restait plus rien de politique. Tout était gommé, tout était lisse.
Ouais.
Enfin, c'est une grande catastrophe. C'était à Jean-Villars, ça se jouait deux fois, le 10 et 11 octobre. Donc si ça se rejoue, c'est pas la peine d'y aller. À moins que vous vouliez mettre un petit peu de sous en l'air. Mais enfin, c'est pas la peine d'y aller. Moi, j'étais furieux quand
ça
je suis sorti.
Ça vaut pas 4 sous. Hein.
Enfin, ça vaut pas 4 sous, même pas 4 sous. Mais pas un rond. Un théâtre maintenant qu'on aime bien, un petit théâtre, c'est La Vista. La Vista, donc la directrice Lise Sinou, c'est sa dernière saison. Et donc toutes les compagnies qui ont tourné chez elle depuis des années ont décidé de lui rendre hommage, de s'associer avec des cabarets, des spectacles cabarets. Et on a vu le cabaret numéro 1, je pense que je suis le seul à l'avoir vu ici. Personne d'autre l'a vu. Oui, c'était Luc Miglietta qui faisait la mise en scène. Il y avait 10 autres compagnies, mais lui mettait en scène, orchestrait le orchestre. Comme toujours, c'est extrêmement sympathique ce que fait Miglietta. Le fait que des compagnies travaillent ensemble, c'est un peu nouveau. Et puis en même temps, ils se croisent, mais ils ne se connaissaient pas. Je ne suis pas sûr qu'ils aient travaillé ensemble déjà. Et c'était un très très bon moment de cabaret, avec quand même une certaine émotion, puisque que va devenir La Vista sans Lise ? On est en pleine incertitude. Moi, c'est vraiment une salle très conviviale. À chaque fois, on est reçu à bras ouverts. C'est toujours très agréable. Et des spectacles généralement d'une très, très grande qualité. Et les spectacles pour enfants, par exemple, c'est les meilleurs de Montpellier. C'est toujours fait avec un respect du public, du jeune public, alors que d'habitude, très souvent, les spectacles jeune public, il y a quand même un bruit de tiroir-caisse derrière. Et là, pas du tout à La Vista. Il y a vraiment un respect tout à fait à noter.
Et puis quand on voit du coup le soutien qui est donné par les compagnies qui ont accompagné ce théâtre, c'est quelque chose qui a presque quelque chose de révolutionnaire, de voir que des compagnies s'investissent gratuitement et montent un projet ensemble pour soutenir un théâtre. Ça c'est quelque chose aussi qui moi me touche énormément, parce que ça va être peut-être représentatif aussi de l'avenir du théâtre, qui lui est aussi sombre que l'avenir qu'on a tous à vivre en ce moment, et qui va demander des moments de solidarité, qui va demander des moments de gratuité et de confiance. Et là, c'est un beau témoignage, c'est vraiment un très beau témoignage, et quelque chose qui est à développer dans les théâtres.
Mais d'ailleurs, il y aura 4 cabarets au total, et avec un metteur en scène différent à chaque fois. Je pense que c'est Didier Chex le prochain. Ça aura lieu en janvier, donc cabaret numéro 2. Et allez-y, on passe un bon moment d'amour du théâtre et d'amour de la salle, et d'amour pour Lise Sinou, qui a dirigé pendant 14 ans ce théâtre.
Oui.
Donc le cabaret numéro 1 à La Vista, c'était du 7 au 10 novembre, si je ne me trompe. Mais on va reprendre maintenant un théâtre beaucoup plus important, c'est Les 13 Vents, Les Serments Indiscrets de Marivaux, qui avait lieu du 12 au 16 novembre. Eh bien, c'est un spectacle, je me souviens l'avoir vu, mais à part ça, maintenant, je ne m'en souviens plus de rien. C'est vraiment le spectacle... C'est quand même bizarre, je n'ai plus aucun souvenir de ce spectacle, si ce n'est que je n'ai pas passé un mauvais...
Moi non plus.
Toi non plus ?
Aucun souvenir, mais c'est impressionnant. Hein. Croyais même que je n'étais pas allé.
Moi, je t'avais noté, parce que j'avais dit, tiens, tu l'as vu, puis tu me disais, mais non, je ne l'ai pas vu. Mais je me suis dit, mais si, Marivaux, etc. Et en fait, ça t'est revenu, mais en fait, moi, je n'ai aucun souvenir de ce spectacle. Bon, on avait reçu les comédiens ici... Il nous avait fait une performance au minimum syndicale.
Ah, ça y est oui, alors ça me revient des trucs, mais alors pas des choses bien, donc c'est pas la peine.
C'est vrai qu'ils n'étaient pas très sympathiques, les comédiens, quand ils sont venus. Prétention. Ils avaient un petit côté prétentieux parisien.
C'est toujours comme ça, quand on est mauvais, on est prétentieux.
Donc les Serments Indiscrets, c'est pas la peine d'y aller, hein. Il y a des meilleurs Marivaux dans des plus petits théâtres, voilà. C'était au 13 Vents, donc du 12 au 16 novembre.
Par contre, je confirme que cabaret numéro 2 à La Vista, c'est en janvier.
Voilà, c'est au mois de janvier. Donc regardez sur le site de La Vista, là, vous passerez un bon moment, je pense.
Parlons de choses agréables.
Bah justement, dans les choses agréables, on va à Jean-Villard maintenant avec le dernier spectacle de Villanova, La croisière des rabat-joie. Robin, c'était ta première fois pour voir Villanova sur scène?
Oui, c'est un personnage, c'est vraiment un grand personnage fort sympathique et engagé d'une manière assez nouvelle du coup dans le théâtre, dans ses monologues, dans ses one-man shows, enfin finalement des monologues avec plein de personnages qui reprend des personnages typiques de la région et un théâtre qui pour moi qui n'avais jamais vu cette sorte de théâtre et Villanova a été une jolie révélation du coup avec un public qui lui était très familier. Du coup, il y avait un côté très très chaleureux, très amical et du coup un côté aussi politiquement engagé contre le gaz de schiste dans cette pièce-là avec moi j'aime beaucoup l'idée du coup des personnages qui reviennent et comme une espèce de feuilleton de série théâtrale mais dans le bon sens du terme avec du coup le fameux Jean-Charles qui est le Zazou du village et qui vient foutre en l'air tous les plans des industriels
il vient foutre la merde en fait on a beaucoup de sympathie pour lui et puis Lucette aussi quand même.
Ces vieux personnages qui reprend avec tant de vérité et tant d'amour pour eux que ça c'est beau, enfin c'est vraiment beau et c'est marrant parce que même moi qui suis pas de Montpellier et il reprend beaucoup de personnalités qui viennent de Sète apparemment si j'ai compris et moi-même j'ai retrouvé la vieille espagnole qui dans mon village était aussi avait ses aspects très très familial qui nous tutoyait toujours avec son mauvais français mais du coup ici qui se noue en fait autour de cette intrigue du coup pour comprendre comment faire face à ces entreprises qui manipulent les gens et pour installer des intérêts privés dans les villages et quelque chose qui nous touche concrètement. Et après, bon, la solution est complètement extravagante et imaginaire avec un parcours de Jean-Charles qui va pactiser avec le diable pour faire jouer toutes sortes d'hallucinations et de mauvais tours aux personnages de cette ville pour qu'ils comprennent le sort qui leur est réservé et la nécessité de résister.
Le diable est obligé d'intervenir. Mais moi, ce que je peux noter quand même dans les spectacles de Villanova, c'est que c'est un très, très grand professionnel. Il est impressionnant de professionnalisme. A priori, moi, j'aime pas du tout les one-man shows. Mais là, c'est pas un one-man show. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Et tu disais, la complicité du public, il y a des gens visiblement qui le suivent depuis des années, parce que je sais plus combien il a fait de spectacles, avec toujours les mêmes personnages qui reviennent, avec des sujets différents. Le dernier, c'était sur la campagne électorale de Sarkozy. Il aimait pas du tout Sarkozy, pas la peine de le dire. Et là, c'était François Hollande qui dérouillait pas mal. Rocard aussi, on prenait plein la gueule.
Mais il a bien raison. Non, mais ce qui est la grande différence avec des gens comme ça, une des grandes différences, c'est qu'il y a une universalité dans son, et dans son jeu, et dans son univers, et dans ce qu'il raconte, que les autres, ils sont là en train de raconter ces petites blagues. Hein. Ah ben c'est mignon. Hein. L'autre jour, je suis sorti avec ma copine. Mais vous vous rendez compte, hein? Il m'est arrivé un truc, mais c'est pas possible. Hein.
Bon, c'est pas du exact, tout ça. C'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est que le one man show n'était pas centré en fait sur la personne. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il se met pas en avant. Il va mettre en avant du coup des personnages en plus qu'on voit jamais au théâtre, qui sont les personnages de Lucette, les personnages des faubourgs.
Et puis c'est universel. On part dans un délire. On imagine, on voit sur scène le village, les rues, tout. Hein.
Et ce qu'il faut signaler, c'est que Villanova, on l'a interviewé à de nombreuses reprises, c'est toujours le grand plaisir qu'il a à venir nous voir à Vendredi Théâtre, sa gentillesse.
Oui, discuter en antenne, avant, après, pendant.
Et puis moi, je lui demande toujours un extrait. Et puis il y a toujours un moment anticlérical dans son spectacle. Et donc, c'est l'extrait que je lui demande. C'est toujours, on va bouffer du curé. On va manger ensemble alors. Hein. On va à la même soupe. Et il fait toujours ça avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humilité. Et c'est un véritable plaisir de le recevoir à l'antenne. Vraiment quelqu'un de très gentil. C'était donc au théâtre Jean Villard. C'était le 14 et 15 novembre. Que deux représentations. Et on attend qu'il revienne, qu'il nous remonte ce spectacle. Voilà, c'est le grand Villanova. Bon, on va faire une autre petite pause musicale avec Astor Piazzolla, Jerry Mulligan. Thank you. Jerry Mulligan, Astor Piazzolla, c'est vraiment magnifique ce morceau. Voilà, c'est une matinée un petit peu argentine puisque nous rendons hommage à Rodrigo Garcia qui vient d'être nommé à la direction des 13 vents et qui est d'origine hispano-argentine. Nous sommes dans la rubrique « Mérite un large détour » pour ce vendredi théâtre. Nous passons un petit peu au crible les uns et les autres, les pièces que nous avons vues. Donc il y a des pièces qui méritent un large détour, allez-y, et d'autres qui méritent aussi un large détour, n'y allez pas. Eh bien, moi, je crois pas. C'était au théâtre Pierre Tabar et c'était du 13 au 24 novembre. Moi, je ne l'ai pas vu. C'était par la compagnie de l'écharpe blanche sur un texte de Grimbert. Et toi, Tito, tu l'as vu?
Oui. Alors là, ça va être du copinage parce qu'on a... sont des amis. Mais de toute façon, j'ai aucune gêne à le faire. C'est Jean-Louis Saul et
Suzanne de Morlon.
Suzanne de Morlon qui était sur scène. Que dire? Déjà, c'est très drôle, c'est bien choisi. Moi, j'aurais jamais cru aussi que Jean-Claude Grunberg soit aussi bon que dans le texte.
C'est un très bon auteur.
Parce que j'ai un petit a priori contre. Le théâtre qu'on appelle privé, hein, et comme quoi on a tort, hein, il faut pas.
Mais on a vu plusieurs spectacles d'après lui, à chaque fois c'est.
Il faut jamais avoir des préjugés, comme quoi, hein, justement. Moi j'avais aussi un préjugé sur Suskin aussi, et puis j'ai vu la contrebasse et je trouve ça une bonne pièce.
Hein, ça c'était voilà. L'année dernière. Voilà.
Alors après bon bah ce sont deux très grands comédiens de Montpellier qui sont sur scène, donc c'est aussi très agréable. C'est fait avec des bouts de ficelle, avec presque rien. C'est minimaliste presque. Ce sont des scénettes, mais ce n'est pas une pièce à sketch.
Mm-hmm. C'est une fausse pièce à sketch.
Voilà, c'est une fausse pièce à sketch. J'ai trouvé que la fin, qui est assez déroutante, disons, ils ont trouvé une pirouette pour la rendre encore plus crédible et plus intéressante, surtout dans le jeu, parce que c'est Jean-Louis Saul qui juste par la mimique, rend la fin encore plus crédible que dans le texte. Moi, je trouve ça une réussite totale. On rit beaucoup. Et alors, elle me fait penser. Alors voilà, ça y est, je vais ramener le Portugal.
il y avait longtemps.
Non, mais j'ai vu une pièce dont j'ai parlé déjà ici.
Au Festival d'Almada.
Et qui s'appelle Salavip. Et m'est arrivé la même chose, c'est-à-dire une pièce où on commence par rire, parce que c'est un jeu de massacre. Et puis finalement, à la fin, on comprend que c'est une tragédie. Et on a un regret, on se dit, est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'était pour rire? Est-ce qu'on devrait rire? Est-ce que j'ai pas eu l'air ridicule de rire? Et là, j'ai exactement le même sentiment. On a le même sentiment là. À la fin, on se dit, est-ce qu'il fallait rire? Est-ce que c'était vraiment drôle? Et en fait, après réflexion, évidemment que oui, c'était drôle. Parce que la vie est une tragédie, mais elle est drôle aussi.
C'est vrai que dans la pièce, moi j'avais lu la pièce il y a 2-3 ans je crois, et ils ont un côté affreux, sale et méchant ces personnages, et c'est d'autant plus drôle quand on connaît Suzanne de Morlon, qui est quand même une très très grande dame avec beaucoup de classe, quand elle nous parle, est-ce que les haricots ça fait péter, et c'est un petit peu ce côté... On ne s'attend pas à ça du tout de sa part.
C'est qu'en fait, la pièce, la preuve que c'est une bonne pièce, c'est que ça peut être joué par quelqu'un qui fasse, je ne sais pas, Balasco par exemple. Ça peut être joué par Balasco aussi, le personnage. Parce qu'ils sont d'une banalité petite bourgeoise tellement affreuse que ça peut être tout aussi bien du lumpen bourgeoisie, quoi, du mitrash, quoi, petit pavillon de banlieue miteux, comme ça peut être de la ce moyenne cadre, etc. Mais
minable.
Mais minable, parce qu'est-ce qu'il y a de minable chez eux, en fait ? C'est leur absence totale de culture, leur absence totale d'intérêt pour quoi que ce soit. Ils s'intéressent à rien.
Si à la télé.
Oui, voilà. Et ils sont lobotomisés complètement. Donc ça peut être tout aussi bien des gens d'un milieu relativement aisé comme d'un milieu complètement ringard et lamentable, quoi, prolétaire presque.
C'est vrai qu'il y a un côté lumpen prolétariat de la pensée.
Voilà. Mais c'est valable pour tout. C'est transversal et c'est la grandeur de la pièce, c'est que ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît des gens comme ça et on sait que c'est à ces gens-là qui s'adressent la pub, c'est à ces gens-là qui s'adressent les programmes, c'est à ces gens-là qui s'adressent même le théâtre privé, c'est à ces gens-là pour qui il écrit d'ailleurs, c'est à ces gens-là qui s'adressent le théâtre privé, c'est à ces gens-là qui s'adressent les programmateurs de cinéma des grandes salles, voilà.
Voilà, c'était donc au théâtre Pierre Tabar, c'était du 13 au 24 novembre. D'ailleurs, le théâtre Pierre Tabar, on n'a pas été beaucoup au théâtre Pierre Tabar, parce que je crois qu'on a eu un petit malentendu avec la direction, on avait mal compris peut-être, je veux croire qu'on avait mal compris, que l'on n'était plus les bienvenus au théâtre Pierre Tabar. J'espère que pour 2014, ça ira mieux, ça s'arrangera. Voilà, théâtre Pierre Tabar, si tu nous écoutes, hein, Marc Chawat, ben on espère revenir chez toi si tu veux bien nous accueillir. Voilà, eh bien, un autre gros morceau maintenant, c'est Tambour dans la nuit, qui était au 13 vents d'après Bertolt Brecht. Alors là, tout le monde l'a vu, c'était du 19 au 23 novembre au 13 vents sur la grande salle. Et c'était un Brecht quand même assez phénoménal, un Brecht de jeunesse, c'est-à-dire ça doit être sa deuxième ou troisième pièce, je ne sais plus. Sa deuxième, il y a eu Bal et il y a eu Tambour dans la nuit. Alors tiens, Robin, tu l'as vu ? C'est quand même tout à fait différent du Brecht dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, c'est une pièce du coup qui est assez...
Il n'y a pas photo.
Ouais, une pièce qui est très éclatée, où du coup on sent aussi l'incertitude du jeune Brecht face à sa position anarchiste, face à la révolution spartakiste qui est en toile de fond dans la pièce. Et une pièce du coup qui est traversée par une histoire tragique d'amour entre un soldat qui est parti à la guerre, un soldat allemand, et sa compagne qui est restée dans cette famille qui pour le coup est d'une bourgeoisie la plus atroce, avec un père qui gère sa famille comme un manager de foot en essayant de caser sa fille avec un jeune prétendant qui lui a tout de l'arriviste.
Du pourri quand même.
Du pourri
par le fric.
Et alors du coup, ouais, les personnages sont formidables au début, ils ont tous un caractère qui est complètement caricatural, mais aussi vrai, je pense. Et après, la pièce se complique, du coup, au fur et à mesure, avec le retour, du coup, de cet homme et la révolution qui débute.
La révolution spartakiste, oui, ouais. qui est juste derrière.
Et alors, moi, je tiens à souligner la beauté de la mise en scène. C'est vrai qu'elle a...
Dag Jeanneret
a fait des merveilles de lumière, avec une lune qui surplombe la pièce durant toute la durée de la pièce. Et avec des structures, avec des grands miroirs, vous voyez vraiment, il y a une beauté assez simple aussi de la mise en scène. Dans une pièce qui est fondamentalement difficile à suivre, parce que les réflexions des personnages sont triturées, il y a les révolutionnaires qui se font embarquer par l'ancien capitaine qui était disparu, qui revient. Les positions sont difficiles à cerner. C'est une pièce, du coup, qui, pour moi, j'ai senti assez sombre. Sombre dans la fin et sombre aussi difficile dans la compréhension. Et c'est ça, du coup, que je reproche un peu. Mais je pense que c'était une tâche qui était très difficile. Mais du coup, de moi, ne pas avoir réussi à être pris par les déchirures entre les prolétaires, entre les revenants.
Il faut savoir que c'est une pièce que Brecht a écrite 5 jours après il a commencé à l'écrire 5 jours après la mort de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, qui dirigeait la révolution spartakiste. Tito.
Le problème est dans la pièce, mais aussi dans le regard qu'on porte sur Brecht. Parce que quand on va voir Brecht, on sait qu'il était marxiste-léniniste, etc. Alors, c'est pas une pièce marxiste-léniniste.
Pas du tout.
Voilà, il n'est pas encore dans cette mouvance-là, déjà. Donc, erreur de lecture, notre part. Hein, on s'attend à quelque chose dans ces eaux-là, et c'est pas le cas. Et puis, c'est lui qui brouille les pistes. Puisqu'on commence par une histoire de bourgeois plus ou moins profiteurs sur fond de guerre.
Juste l'après-guerre.
Voilà, un mariage arrangé, un amoureux, on ne sait pas si c'est l'EF. Bon, on commence par une espèce de théâtre bourgeois. Et puis finalement, on s'aperçoit que tout ce qu'il veut raconter là, dans la pièce, c'est l'histoire de ce soldat. C'est l'histoire d'un soldat, en fait. C'est le retour du soldat. Et ça, on le comprend que petit à petit. Donc, on est dérouté aussi. Mais je ne vois pas pourquoi Dag aurait dû effacer ça. Cette confusion qui est peut-être voulue par l'auteur sur des fausses pistes. Il nous lance sur des fausses pistes et lui, il n'a rien fait pour corriger ça. Mais je crois que c'est peut-être une bonne idée aussi. Moi, c'est vrai que j'étais un peu dérouté par ça, mais pourquoi pas? C'est un parti pris de mise en scène qui me semble juste, puisque c'est dans la pièce, ces fausses pistes. L'auteur a certainement voulu nous amener vers des fausses pistes.
Ce qu'il y a aussi, moi je suis sorti du spectacle assez dubitatif parce que c'est une pièce qui fait réfléchir. Et à la fin du spectacle, bien sûr, tout le monde applaudit, mais moi j'étais en train de réfléchir pour me dire, tiens là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai bien compris ça? Etc. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression.
Moi j'ai eu la même impression, j'étais dans le même cas que toi. Du coup.
Voilà, donc,
Et finalement, ce qui est difficile dans ce genre de pièce, c'est qu'on a tellement la tendance à distancier la pièce pour arriver à essayer de la comprendre, et la pièce se déroule vite et on a du mal à rentrer du coup dans les créneaux du mécanisme et à avancer en même temps que la pièce, et du coup il y a cette difficulté en fait de compréhension qui fait qu'on a du mal à garder pas à pas, à avancer pas à pas avec la pièce, et c'est là où je pense que le metteur en scène doit agir, non pas forcément sur la confusion qui peut être nécessaire, mais sur arriver à garder le spectateur à l'intérieur de cette confusion, chose très difficile, j'imagine.
Oui, par exemple, à chaque fois on s'accroche à des choses, mouvement spartakiste, mais tout ça ce ne sont que des toiles de fond. Mais comme à un moment donné ça devient le problème principal qui est abordé à ce moment-là de la pièce, on est parti là-dedans, et hop, ce n'est plus la question de ça après. Ou très peu. Et donc, du coup, c'est ça qui nous. On est perdu. C'est comme le mariage, finalement. est-ce qu'il se marie ou pas, etc. Et à la fin, on s'en fout, en fait. parce que c'est complètement oublié, hein, l'histoire du mariage arrangé à la fin, pratiquement, parce que de toute façon, c'est pas ça la question. Même dans leur relation entre eux, hein, c'est à la fin, c'est passé... perdre ses préfets, le mariage.
C'est comme l'engagement pour la révolution spartakiste. En fait, le soldat, il n'est pas du tout concerné par la révolution spartakiste. Il est là-dedans, il se retrouve là-dedans parce que bah, il a envie de mourir, il a envie de se suicider, donc il veut mourir comme ça. Mais en fait, son aspiration, c'est bien à devenir un petit bourgeois, avoir son petit confort, son petit mariage, son petit pavillon de banlieue. Il est assez minable aussi.
Oui, oui, mais tous ces petits... pièces de Lego se rassemblent après pour comprendre ce personnage. En fait.
Mais c'est vrai que j'ai eu du
tout
mal.
Tout ça, c'est uniquement pour qu'on comprenne le.
J'ai eu du mal à le cerner du coup à la fin. Parce que du coup, finalement, je m'étais accroché en fait à ce soldat qui me paraissait moi, enfin qui a vécu un enfer et puis qui revient et qui toute cette déception. Moi, je l'avais pris un peu en affection et finalement, on a du mal à se détacher des personnages pour arriver à faire la part des choses en fait.
On se rend compte à la fin qu'il est pas forcément très sympathique. Ce personnage, il est pas mieux que les autres. Il est pas mieux que les autres. Il s'est retrouvé embarqué dans 5 ans de guerre, mais en fait, son aspiration, elle est tout à fait minable.
Il est parti en Afrique tuer des nègres, comme il dit. Hein. Oui. Et ça ne le gênait pas du tout. Hein.
C'est vrai.
Pas du tout.
On va continuer. Donc ça, c'était Tambour dans la nuit. C'était au 13 vents. C'était du 19 au 23 novembre. Il nous reste 5 minutes, à peu près 5 ou 6 minutes pour conclure. On va parler très rapidement d'un autre spectacle qui était à la Vista, qui s'appelle De l'usage des bottines, que moi, j'avais vu il y a 2 ans. Et que toi, tu as vu pour la reprise Tito. Alors, c'était la Compagnie Amarante. Moi, j'ai un très, très bon souvenir de ce spectacle.
Moi aussi. Moi, je ne suis pas forcément client du cabaret. Pourtant, voilà, là, c'est réussi. Il y a un discours. Il y a un discours cohérent. Il y a un message qui n'est pas lourd, mais qui est important. Il y a énormément d'énergie, des comédiennes qui sont très bonnes dans tout ce qu'elles font, vraiment polyvalentes.
Elles chantent bien.
Chantent bien, dansent bien, jouent bien, ont un rapport avec le public chaleureux et intéressant. C'est pas du tout ce genre de spectacle aussi où on vient nous chercher dans le public, on n'a aucune envie. Là, ça ne gêne pas du tout, au contraire, on est content qu'elles viennent. Et nous servent même de la sous-soupe, j'adore.
C'est vrai qu'à un moment dans le spectacle, elles servent de la soupe au public.
Voilà.
Non, mais c'est un spectacle extrêmement sympathique. En plus, c'est un spectacle féministe, mais qui est sympathique, parce que c'est pas le côté féministe.
Ça aborde de façon sympathique des questions importantes et des questions cruciales, et y compris de comment faire un cabaret. Et c'est très réussi là aussi, quoi.
Voilà. Voilà, c'était donc à la Vista, c'était du 21 au 24 novembre, et un très bon moment, vraiment, très bon moment qu'on a passé pour ce spectacle. Donc si ça se repasse un jour, allez-y, parce que c'est vraiment très bien. Alors on va conclure avec un spectacle où on n'est pas d'accord, c'est Elcide qui avait lieu à Jean-Villard. Je crois que Tito et Robin, vous avez bien aimé, c'est loin d'être mon cas. Robin.
Oui, moi j'ai bien aimé parce que c'était un spectacle du coup qui s'intéressait à un classique en le distanciant, en introduisant du coup de la musique, de l'humour, une simplification voulue, très pédagogique, mais qui a beaucoup marché en fait avec les scolaires. Enfin moi, ça m'a touché personnellement et j'ai vu que ça avait une incidence sur les scolaires qui étaient là, qui avaient abordé un classique pour une fois avec de manière pas lourde, de manière du coup qui avait un côté ludique qui peut être désagréable, mais il y avait une telle bonne humeur, une telle énergie et la démarche de création du spectacle qui m'a beaucoup marqué, d'aller voyager en Espagne, rencontrer des Espagnols, discuter des problématiques du CID, de la justice, de l'amitié, de l'amour avec des Espagnols et puis venir après avec une création à la fois théâtrale et musicale et avec un univers complètement imaginaire et caricatural dans la représentation des personnages. Mais qui moi m'a fait passer un très bon moment et m'a quand même fait réfléchir du coup sur le CID.
Tito, toi aussi tu as bien aimé si j'ai bien compris.
Oui, moi déjà la démarche de recherche, j'ai beaucoup aimé le personnage du CID parce que pour une fois c'est un CID qui correspond à quelque chose de bien espagnol et pas à l'image du Pinel des Espagnols, Hidalgo, etc., mais plutôt au Picaro, hein, ce personnage typiquement espagnol qui est à l'origine de tant de personnages de la littérature, puisque le roman, si on peut, moderne, est probablement né en Espagne avec Lazarillo de Tormes, hein, et ce personnage qui n'est pas le Matamor, hein, c'est pas ça, hein, du comique français, c'est El Pícaro, et c'est El Cid, et en plus ça correspond au personnage historique, puisque le personnage historique était un gars qui se vendait à droite et à gauche. Hein.
C'est un mercenaire.
Mais le Pícaro, c'est presque l'inverse de ça, parce que le Pícaro, c'est quelqu'un qui est un malin, hein, qui est un débrouillard, mais c'est quelqu'un qui arrive dans une situation explosive et qui l'a fait imploser par sa seule présence et par sa seule personnalité. Et donc, ça, j'ai trouvé ça remarquable. Un très bon travail sur le personnage, là. Et c'était très bien rendu, ça.
Et toi, Florent ?
Eh ben, Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je me suis ennuyé horriblement. Il y a un petit côté, quand même, le Cid pour les nuls. Hein, voilà. Vous n'aimez pas le Cid, vous ne connaissez pas le Cid. Eh ben, on va vous le faire pour que vous compreniez, parce que vous êtes un peu con. Donc, on va vous le faire de manière la plus bruyante et tonitruante possible. À l'arrivée, bon, ben, le ver et le verbe cornélien, il n'en reste plus grand-chose. Et moi, ça m'a déplu. Et puis, je me suis ennuyé, parce que je n'ai pas marché du tout dans les combines, dans les gags. Ça ne m'a pas fait rire du tout. Et puis, je n'ai pas retrouvé mon Corneille. Donc, voilà, j'étais tout à fait frustré, parce que Corneille, c'est quand même vachement bien. Ça peut être vachement drôle aussi. On va voir, il y a deux Corneilles qui vont être à l'affiche des 13 vents au mois de janvier. Il va y avoir Pompée, puis après je ne me souviens plus de l'autre pièce de Corneille. Tu peux m'aider, Tito, pour la deuxième pièce de Corneille ?
Là, il faut que je regarde.
Voilà, ça sera au mois de janvier. C'était une mise en scène d'une dame qu'on avait déjà vue il y a 2 ans pour d'autres Corneilles. C'était très très bien. C'était Nicomède et Surena la dernière fois. Et c'était très bien. C'était
Sophonisbe, c'est ça ?
Voilà, Sophonisbe. On dit Sophonisbe. Voilà.
Ah bon, je suis un culte. Vous voyez, on n'est pas... comme le personnage de...
Dans Vendredi Théâtre, on n'est pas toujours d'accord. Il nous arrive même de nous engueuler à la sortie de spectacle en disant « moi, c'était bien, moi, c'était pas bien, etc. etc. »
C'était mais pas c'est... passé à la télé, sauf Lisbe.
Je crois pas. Je crois pas. Tu vas pas jouer quand même « moi, je crois pas hein. », dont on parlait tout à l'heure.
Ça fait péter.
Voilà, Vendredi Théâtre, la dernière de l'année, donc on va prendre quelques petits jours de vacances. Je vais remercier Gilles à la technique. Merci Tito, merci Robin pour ces émissions. Puis on se retrouve de toute façon le 10 janvier, donc à l'année prochaine, pour la prochaine de Vendredi Théâtre. Et on va se quitter avec un petit clin d'œil, on va rester dans l'Argentine, et un petit clin d'œil à notre ami Grazia, puisque c'est la rencontre de Milva et d'Astor Piazzolla. Donc c'était un concert qui avait lieu en 1984 au Bouffe du Nord, et j'étais dans la salle. Voilà. À l'année prochaine.
C'était la musique de notre mariage.
J'allais dire c'est
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá. A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que vi. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras y aquella otra y todas eran vos. Y al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido.